Cela fait presque 8 ans que je suis curé parmi vous et dès le début, j'avais suivi une formation où l'économe diocésain avait sensibilisé les curés de paroisse aux besoins de l'Église de trouver des sources de financement. Et parmi celles-ci, une qui est souvent ignorée par beaucoup de chrétiens, c'est le legs, ou le fait de prévoir dans son testament une partie des dons, des donations que nous pouvons faire, et bien de pouvoir la réserver à l'Église. Et il disait, c'est important pour vous, curés, de sensibiliser votre communauté chrétienne à cela. Et je vous avoue que pendant 8 ans, j'ai failli à ma tâche. Parce que c'est pas facile, hein. Pas facile de parler d'argent et c'est pas facile de sensibiliser les gens à mettre dans le testament une petite ligne pour l'Église. Et puis je me dis aujourd'hui, c'est un beau clin d'œil de la Providence que la première lecture m'y incite. Et donc c'est pas de mon autorité. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. J'attends. Plus sérieusement. Plus sérieusement, je crois que, même si je laisse cet appel retentir dans vos cœurs, je voudrais attirer notre attention sur le fait que ces lectures nous sont proposées le jour où vous, qui allez vous marier, vivez une journée de préparation plus intense que les autres rencontres. Parce que je crois toujours que la parole de Dieu est vivante et qu'elle nous parle chaque jour. Et que c'est jamais par hasard qu'un texte de la liturgie vient nous rejoindre dans notre quotidien, même s'il peut sembler très éloigné. Je crois que c'est une chance d'accueillir et d'entendre ce texte à un moment où l'argent et le couple ne font pas forcément bon ménage. L'argent dans un couple, c'est une question très délicate. C'est déjà vrai dans l'Église, c'est vrai dans la société, et c'est aussi vrai dans l'intimité. Et je crois que ce petit verset, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun, nous dit quelque chose sur le rapport du couple chrétien avec l'argent. Le mariage, par le mariage, nous créons une communauté, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, de toute la vie. Et donc, rien, y compris l'argent, n'est laissé en dehors de ce que nous fondons, qui est cette communauté de toute la vie. De ce fait, je ne garde plus des choses pour moi, mais je les partage avec toi. Vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est bien plus difficile à vivre. Et puis, il y a tellement de situations, par exemple, un métier de commerçant, de chef d'entreprise, ou si le commerce ou l'entreprise fait faillite, eh bien c'est la famille qui risque d'en subir les conséquences. Il est évident que la sagesse, et l'Église d'ailleurs le confirme, nous demande que dans certaines situations, nous puissions faire un contrat de séparation de biens. C'est vital, c'est sage. Mais entre ce contrat de séparation de biens pour la vie de la famille et un laisser-aller de notre égoïsme et de notre, il faut le dire, avarice, c'est-à-dire de notre amour désordonné de l'argent, il y a un pas facile à franchir. Ce pas, j'en avais été témoin quand j'étais tout jeune prêtre. J'avais été très marqué par un couple que je préparais au mariage. Ce n'était pas ici, donc je peux en parler. Un couple très sympathique. On discute, et puis on en vient à parler de cette question de l'argent dans leur vie. Et là, la fiancée dit « Ah, moi, mon oncle est notaire, et il m'a dit « Oh là là, il faut faire un contrat de mariage, et tu gardes tous tes biens parce qu'on ne sait jamais. » Je n'en revenais pas. Je lui ai dit « Mais tu te rends compte de ce que tu dis là ? Et devant qui tu le dis ?» Pas devant moi, hein, c'était pas ça qui était important. C'est devant lui. Tu t'engages, tu es prête à t'engager et à promettre quelque chose de grand pour toujours avec celui que tu appelles l'homme de ta vie, et dans le même temps, tu lui dis « je réserve mes arrières parce qu'on sait jamais. Hein. » Ça fait penser au marin d'eau douce. Vous savez, ces marins d'eau douce sont des marins qui ont un bateau qu'ils ont acheté et puis qui ne sert qu'à faire des apéritifs dans le port. On en rit, hein. Mais mon frère marin me disait que c'est à peu près 40% des bateaux de nos ports qui servent à ça. 40%. Voilà, bien, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, en ce dimanche, spécialement vous qui êtes mariés, à peut-être vous rasseoir et à porter dans votre prière, en ce temps pascal, cette place de l'argent, et plus exactement du partage dans votre communauté de vie qu'est votre couple. Nous avons entendu ensuite, et cela est bon aussi en ce jour de dimanche de l'Alliance, que chez l'apôtre Saint Jean, il nous invite à garder les commandements du Christ Jésus. Car c'est en gardant ces commandements que nous aimons Dieu. Ces commandements, nous les savons, ils ne sont que deux. Et ils sont le moteur de notre vie. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, de toutes nos forces et de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là encore, je me dis que pour des couples qui se préparent au mariage, c'est une bonne chose d'entendre cela. Avec ce paradoxe étonnant, l'amour est un commandement. Tu aimeras. Ah non, n'importe quoi, l'amour c'est un sentiment. L'amour c'est quelque chose que je ressens, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise « il faut que tu aimes ». Je l'ai déjà en moi. Naïf. Tu n'as pas encore expérimenté la durée des jours. Tu n'as pas encore expérimenté les réveils difficiles après une nuit de ronflement qui t'ont empêché de te reposer. Tu n'as pas encore expérimenté ces énervements pour toujours. Ce tube de dentifrice qui n'est pas fermé comme toi tu le fais. Ou alors, tu n'as pas encore expérimenté ces critiques sur ta mère. Ton père, ta famille. Ces petites attaques du quotidien, ces petites faiblesses du quotidien viennent peu à peu gratter, éroder cet amour-sentiment que tu avais. Et c'est bon alors de te rappeler que comme chrétien, tu fondes ta vie sur un commandement. Parce qu'un commandement, c'est bien plus stable, c'est bien plus solide, c'est bien plus libérateur, aussi paradoxal que ça puisse paraître, qu'un sentiment. Un sentiment, ça peut te rendre esclave, parce qu'un sentiment, ça ne se commande pas. Tu peux être amoureux de cette femme un jour, et puis en rencontrer un jour une autre qui te plaise davantage. Ça arrive. Et ce qui est vrai pour les hommes est aussi vrai pour les femmes. Ça arrive. Et c'est pas grave. Nous ne fondons pas le mariage sur un sentiment. Nous fondons le mariage sur une parole et un engagement. Et c'est la fidélité à cette parole et à cet engagement, à cette foi donnée, qui est beaucoup plus solide que la volatilité de nos changements intérieurs et des jeux de nos phéromones qui peuvent nous aiguiller vers un tel ou vers une telle. Nous sommes alors esclaves de ces jeux hormonaux. Mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc nous pouvons devenir maîtres grâce à la puissance de la vie divine de ces sentiments. Ou plus exactement, nous pouvons les accueillir et les mettre à leur juste place. C'est un petit peu l'histoire de Thomas. Thomas qui ne croit pas tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il n'a pas touché, tant qu'il n'a pas ressenti. Ah, ce ressenti. Naïf. Naïf, toi qui crois que la foi, c'est un jour vivre une expérience de Dieu incroyable où Dieu s'impose à toi et où tu ne peux pas y résister. La foi, ce n'est pas ça. La foi s'expérimente d'abord dans la famille, dans le couple. Je fais confiance à ta parole. Je crois que quand tu me dis « je me donne à toi », tu te donnes à moi. Tu ne te prêtes pas, tu te donnes à moi. Et ce don que j'accueille fait que, à mon tour, j'ai envie d'être fidèle. Et que, à mon tour, je vais te donner ma foi, ma confiance. Vous allez nous dire, et je finis là, que tout cela est bien utopique et que la réalité du monde d'aujourd'hui nous montre que cela est bien fragile. Et c'est vrai. Et c'était le cas dès le début. Car juste après le récit un peu idyllique que nous avons entendu dans les Actes des Apôtres sur le partage et la mise en commun de tous les biens, au chapitre 5, le chapitre qui suit exactement ce récit, nous avons l'histoire d'un couple, Ananie et Saphire, qui va trahir cet idéal. Ananie et Saphire vont vouloir jouer au bon chrétien. Ils veulent avoir les bons points de la communauté, ils veulent se faire bien voir. Alors, comme ils voient que tout le monde est profondément généreux, ils vont vendre un champ, sauf que ils vont dire qu'ils l'ont vendu, allez, disons, 50 000 euros, alors qu'en fait, ils l'ont vendu 100 000 euros. Et ils vont garder la moitié de la somme pour eux, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà qu'Anani et Saphir vont être confrontés au couperet de la vérité, parce qu'on ne triche pas avec la vérité. Et je vous inviterai à lire par vous-même ce chapitre 5 des Actes des Apôtres. Avec une clé de lecture qui est importante parce que sinon on peut faire une erreur, on peut très mal interpréter ce texte. La clé de lecture, c'est que rien ni personne ne t'oblige à être généreux. Tu es libre de l'être. Mais si tu le fais, fais-le de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Amen.